Bonjour Immacula. Bonjour la sœur Florie. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous sommes le lundi 27 septembre 2021. Ça passe vite. Le mois de septembre est déjà presque terminé. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour Rosanie. Que Dieu vous bénisse. J'ai bien hâte de vous voir. Je vous vois le matin apparaître. Mais j'ai hâte de vous voir éventuellement à l'église. C'est pas la même chose pour moi. Bonjour à mon père, à ma mère. h 22, vous avez encore le temps d'aller vous chercher un café, un thé. Bonjour Nadège, soyez bénie. Moi, le café, je l'ai déjà bu avant d'entrer en onde. Donc, ce matin, je vais me contenter de la bouteille d'eau. Vous avez déjà vu la thématique qu'on a établie pour aujourd'hui et pour cette semaine en fait. Des pièges qui guettent le héros. Je vous expliquerai le mot héros tout à l'heure. Assurément, ça ne veut pas dire nécessairement ce que son homonyme peut signifier. Bonjour à la sœur Samek. Pendant un instant hier, quelqu'un est rentré dans l'église et j'ai cru que c'était vous. J'étais content de voir la personne qui est venue, mais j'ai cru que c'était vous, sœur Samek. Donc je me réjouis à l'idée de vous voir bientôt parmi nous. Bonjour Rachel, que Dieu te bénisse. Il ne faut pas vous étonner si je me suis trompé. Ma femme vous dira que je ne prends pas assez de temps pour bien regarder et que des fois j'en arrive à des conclusions trop rapides par rapport à qui ressemble à qui et tout ça. Mais c'était juste un coup d'œil furtif et je me suis dit, voilà la sœur Samek. Et non, voilà, je m'étais trompé. Ce n'est que partie remise. Alors soyez bénis, Samek. Bien, bien hâte. Octobre est bientôt. Ça nous réjouit. Bonjour, Pasteur David. God bless you. Hope you had a great weekend serving the Lord and preaching the word. I still wake up at 5, but I'm awake just a little bit before, so at 5 I'm already preparing all my stuff. But I need to go to your appointment 5 o'clock and hear the word with you. I'll do it soon, soon, soon. Bonjour Thérèse, que Dieu te bénisse. Bonjour à la belle-mère, soyez bénie. J'aime les cerises. Je mange plus de bananes que de cerises, pour une raison économique déjà en partant. Puis pour une deuxième raison, on trouve des bananes en toute saison. Mais est-ce que la banane est nécessairement... Est-ce que la cerise est nécessairement mon fruit préféré? Je suis ambivalent. Il y en a une coupe, hein? Les raisins, les cerises. Ah, quand une prune est très, très, très mûre, c'est génial. Les pêches et les nectarines blanches, c'est pas piqué des vers non plus. Good for you, Pastor David. I haven't spoke with Pastor Sharon for quite a while now. Mais la belle-mère, j'apprécie quand même ses cerises virtuelles. Soyez bénis. Ce matin, ben cette semaine, je vais partager avec vous un passage que j'ai eu l'occasion de partager avec l'église de Rivière-des-Prairies samedi. C'était leur anniversaire. Et ces temps-ci, j'ai un fardeau pour les pasteurs, pour les ouvriers, pour les prédicateurs. Ça a été 1 an et demi exigeant. Et certains d'entre eux sont fatigués. Certains d'entre eux passent par des moments un peu compliqués. Donc, j'ai eu à cœur de parler sur certains pièges ou certains dangers qui guettent les prédicateurs et autres. Mais on développera ça donc tout au long de la semaine. Aujourd'hui, un peu de pluie sur Montréal. Pas très fort, mais quand même un peu. Mais après ça, tout au long de la semaine, gros soleil. Pas chaud chaud, c'est pas l'été, c'est l'automne. Mais une belle saison qui débute. Bonjour Sylvia. God bless you. Happy to have you with us this morning again. Bonjour Sylvie, soyez bénie. Bonjour Guy, sois béni. Oh, thank you, Sylvia. Bonjour Pascal, soyez béni. Que Dieu vous fortifie. Bonjour aussi à Gabriel. Je viens d'entendre quelqu'un qui est rentré. Ça doit être le frère Gilles. Donc je le salue virtuellement, il va entendre tout à l'heure. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Bonjour Marie-Huguette. Alors on va prier pour débuter et après ça on lit le texte du jour. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes pour cette semaine qui débute. Une semaine à travers laquelle on est convaincu que tu sauras encore nous bénir. Nous enseigner, nous fortifier par ta parole. J'appelle ta grâce sur chacun d'entre nous. J'appelle ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Mais j'appelle surtout, Seigneur, une révélation de ta part, à l'égard de ta parole. Ouvre notre entendement, ouvre notre pensée pour que nous puissions pleinement profiter de ces quelques minutes pour partager, oui, dans ta parole, mais pour recevoir l'enseignement dont nous avons besoin à travers ces prochaines journées. Alors qu'en toute chose, que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous dans 1 Corinthiens au chapitre 2, les versets 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, comme c'est la première fois qu'on lit ce texte, on va le reprendre au complet, juste pour qu'il pénètre bien. Les autres jours, on le lira une seule fois. Donc je reprends le verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors que Dieu bénisse sa parole. Je vous explique tout d'abord le contexte dans lequel ce texte a été écrit. On nous parle en fait ici de la première fois où Paul a eu à voyager vers Corinthe. Là, il est en train d'écrire à une église qu'il a fondée, qu'il a débutée lors de son deuxième voyage. On se rappelle que le premier voyage débute à Antioche et c'est lorsque à Antioche, Paul va, en fait l'église d'Antioche, les anciens, vont recevoir cette parole qui émane de Dieu en disant « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc Paul va partir, effectivement voyager. dans l'Asie mineure, essentiellement dans ce premier voyage, plus dans les pourtours de la Judée. Il va revenir à la fin de ce premier voyage jusqu'à Antioche, qui est son église mère, son église de base. Tous les voyages de Paul débutent et terminent à Antioche. Il n'est pas un des chrétiens traditionnellement attachés à l'église de Jérusalem, mais plutôt à l'église d'Antioche. Et Antioche va être, jusqu'à un certain point, le centre ou la base des missions internationales de l'église primitive. Donc Paul retourne à Antioche et après ça, bon, il repart en voyage. Et il va faire quelques arrêts avant d'arriver à Corinthe. Il va tout d'abord arriver à Thessalonique. On le trouve dans Actes au chapitre 17. Et dans la ville de Thessalonique, Paul va commencer à prêcher à l'Église, mais en fait aux Juifs, tentant de les convertir à Christ, de les approcher du Messie. Et les Juifs vont se soulever contre Paul et contre Silas. Ils vont se soulever contre eux en prétextant que Paul et Silas sont en train de créer une insurrection parmi les Juifs, qui vont même tenter de soulever le peuple. Alors, les Juifs vont amener ça devant les autorités grecques, et celui qui est à la tête de Thessalonique va dire non, non, regardez ça, c'est une question théologique, c'est pas une question qui me regarde à moi, c'est un conflit entre vous, juifs, et entre vous qui êtes de pensée judaïque, je ne m'en mêle pas. Mais le soulèvement va être tellement fort qu'on va demander à Paul, les croyants, les proches de Paul, vont lui demander de fuir durant la nuit. Donc Paul et Silas vont quitter et vont se rendre jusqu'à Béré, laissant derrière eux des chrétiens, des juifs convertis. Certains d'entre eux vont être arrêtés et la Bible nous dit qu'on va les menacer et on ne va les relâcher lorsqu'ils auront payé une forte caution. Donc, on va se graisser la patte sur la tête des jeunes croyants de Thessalonique. Paul va quitter donc Thessalonique, va arriver à Béré, et là parfois on fait une erreur aussi. On parle des chrétiennes Béré mais qui recevaient l'enseignement et qui après ça allaient étudier la parole pour voir si c'était juste. Ce ne sont pas les chrétiennes Béré qui faisaient ça, ce sont les juifs de Béré qui sont confrontés avec l'annonce d'un Messie, avec les balbutiements de la foi chrétienne. Et ces juifs érudits, ces juifs qui connaissent la parole, voire même ces juifs qui, dans certains cas, connaissent un peu moins, mais qui ont accès aux textes de l'Ancien Testament, vont prendre les enseignements de Paul, vont prendre les enseignements de Silas et vont aller étudier ces enseignements à la lumière des textes de l'Ancien Testament pour voir si ce qu'on leur enseigne est juste ou pas. Paul commence à faire du progrès au sein de la communauté de Béré. Alors les gens de Thessalonique, les Thessaloniciens, ayant entendu cela, ayant su que Paul rencontrait un certain succès, vont envoyer des émissaires jusqu'à Béré pour essayer de soulever encore une fois la foule contre Paul et Silas. Encore une fois, Paul va quitter Béré sans que les gens de Thessalonique aient un certain succès. Il va quand même continuer son périple et il va aller jusqu'à Athènes. Il va laisser derrière lui des gens comme Timothée pour continuer à évangéliser, continuer à prendre soin de l'église naissante de Béré. Arrivé à Athènes, un troisième arrêt dans ce voyage, Paul va commencer à discourir avec les gens de la capitale grecque. Et vous savez, les Grecs sont férus de philosophie, les Grecs sont entichés de tout ce qui est la pensée, la sagesse. Et Paul, c'est dans cet endroit où, se promenant dans la ville, va trouver un hôtel qui est adressé à un dieu inconnu. Et Paul va se servir de cet hôtel Paul va se servir de ce culte pour dire aux gens d'Athènes, regardez, vous êtes des gens très croyants, vous êtes des gens très religieux, vous l'êtes tellement que vous avez même un autel à un dieu inconnu qui pourrait vous être présenté, mais que vous ne connaissez pas encore. Et je suis là pour vous présenter qui est ce Dieu inconnu que vous n'avez pas encore nommé. Et il leur parle de Jésus. Il leur parle du ministère de Jésus. Il leur parle des annonces qui ont été faites depuis toujours concernant le Messie et comment ce Messie est donc manifesté à travers Jésus, comment il est mort et comment il est ressuscité. Alors tout va bien jusqu'à ce que Paul parle de la résurrection des morts. Et lorsqu'il aborde le sujet, ben là, les Grecs débarquent, ou une partie des Grecs débarquent en disant, hey, regarde là, on t'entendra sur ça plus tard. Et ça devient effectivement un discours un peu fou aux oreilles des Grecs. Et c'est pour ça que Paul va dire, dans le chapitre 1 de 1 Corinthiens, que le discours qu'il donnait était une folie pour les Grecs. Les Juifs voulaient des miracles, les Juifs cherchaient des hauts faits, les Grecs cherchaient de la sagesse, mais Paul ne va enseigner que Christ et Christ ressuscité, ou Christ mort et ressuscité. Donc, Paul continue ses discours, Paul continue son ministère à Athènes, il laisse là encore des gens établis pour prendre soin de l'Église, et lui continue son périple jusqu'à Corinthe. Et à Corinthe, c'est là qu'il commence une église auprès d'un couple. Paul va arriver en toute humilité. Paul va arriver même avec peu de moyens, peu de ressources. On nous dit qu'il va s'approcher d'un couple juif qui ont été expulsés de Rome, des Juifs qui habitaient donc dans la capitale romaine. Et lorsque l'empereur, à un moment donné, décide de chasser tous les Juifs de la ville, alors Aquilas et Priscille vont être chassés eux aussi de Rome. Ils vont quitter précipitamment et se rabattre à Corinthe et commencer leur travail, commencer leur entreprise là-bas, entreprise à laquelle Paul va se joindre parce que Paul pratiquait le même métier. Paul n'était pas qu'un religieux, Paul n'était pas qu'un membre du Sanhédrin à l'époque, Paul n'était pas que quelqu'un qui était un érudit de la parole de Dieu. Paul avait aussi un métier pratico-pratique qui était faiseur de tentes. Donc il va s'associer à Aquilas, l'homme, et Priscille, son épouse, et ils vont bâtir des tentes, ils vont coudre des tentes qu'ils vont vendre aux gens de Corinthe et aux gens qui passent par Corinthe. Corinthe est un centre névralgique de commerce et un centre névralgique du tourisme, non pas le tourisme pour visiter les hauts lieux, mais le tourisme pour l'échange philosophique et le tourisme pour l'échange commercial. Donc, c'était des gens de passage qui traversaient la ville de Corinthe. Et celui qui avait un commerce de tente était au bon endroit. Donc Paul, avec Aquilas et son épouse Priscille, vont construire des tentes, vont coudre des tentes et vendre des tentes. Et là, on arrive à ce verset 1, où Paul va dire, et je répète le verset, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Le titre pour cette semaine, c'est Des pièges qui guettent le héros. Le héros, non pas comme celui qui fait quelque chose d'héroïque, quelqu'un qui fait des hauts faits, quelqu'un qui fait des miracles ou des prodiges. Non, le terme héros ici, c'est un terme assez vieux en français qu'on utilise très peu maintenant dans le langage contemporain. Un héros, c'était ce qu'on appelait un crieur public. C'était la personne qui se pointait au centre du village, sur la place publique, et qui avait cet énoncé qu'on voit parfois dans des films d'antan, où la personne vient avec une trompette, et après qu'il a sonné la trompette pour faire un rassemblement, il s'écrie « Oyez, oyez, bonnes gens et douces gens, voici ce que dit », et là il nomme la personne pour qui il proclame quelque chose. Donc le héros ici pour cette semaine, c'est celui qui proclame. Et on s'associe donc à la fin de ce verset qui dit « Je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Paul va dire « Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et ce n'est pas avec une supériorité de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Le témoignage de Dieu, témoignage, c'est le terme martyrion, 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 pour ceux qui prennent des notes, martyrion, martyrion, qui nous parle de ce qui a été fait, de ce qui a été vécu, de ce qui fut ou de ce qui s'est déroulé. On parle donc de quelque chose qui est survenu devant nos yeux. Lorsqu'on est témoin, on parle de quelque chose qu'on a vu. Et le terme témoin ou le terme témoignage, aujourd'hui dans nos communautés chrétiennes, c'est un peu tout simplement rapporter une belle chose qui est survenue, rapporter un moment agréable que le Seigneur nous a fait passer, une expérience douce et agréable. Le terme martyrion, on s'entend, c'est pas un terme qui est joyeux. De martyrion, on a amené le terme martyr. Et le terme martyr veut en fait ici se lier à un contexte juridique, à un contexte légal. C'est comme si on va à la cour et on apporte un témoignage. Qu'est-ce qu'un témoignage à la cour? Ben, un témoignage à la cour, c'est quelque chose qu'on a vécu, c'est quelque chose qu'on a vu. On ne peut pas arriver à la cour puis dire « J'ai entendu de quelqu'un qui a entendu, de quelqu'un d'autre qui lui avait rapporté des dires et des propos qu'il avait lui-même entendus d'une xième personne. » Non, lorsqu'on témoigne, on doit témoigner non pas des dires que certains ont répétés et répétés et répétés et qui sont parvenus jusqu'à nous. Non, lorsqu'on témoigne, on parle de quelque chose qu'on a vécu, quelque chose qu'on a vu, quelque chose qui est survenu dans un environnement immédiat de nous. Alors, très souvent, l'erreur qu'on va faire lorsqu'on est un héros, lorsqu'on est un proclamateur de l'Évangile, c'est qu'on va essayer de parler de choses qui sont éloignées de nous. Et c'est là où le témoignage devient difficile. Parce qu'on parle sans la conviction du fait qui est survenu. Très souvent, on est triste de ne pas avoir un témoignage spectaculaire, avoir été un chef de bande, et puis Dieu nous est apparu, et puis on nous a transformé un peu comme Nicky Cross, avoir, je sais pas, une maladie incurable, Dieu nous a touché, puis cette maladie a disparu, être un peu comme le boiteux à la porte de la belle, à qui Pierre et Jean vont dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il se lève et il commence à galoper, et à partir de ce moment-là, il peut effectivement témoigner que Jésus, que la puissance de Dieu, l'a guéri. Très souvent, faute d'avoir ce témoignage, on se dit qu'on ne peut pas témoigner. Dieu assurément a fait quelque chose dans ta vie. Et lorsque nous témoignons, nous devons tout d'abord parler de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et même si ce n'est pas spectaculaire, lorsqu'on parle de ce que nous avons vécu, les gens peuvent effectivement refuser de nous entendre, un peu comme les Athéniens qui vont dire « on t'écoutera une autre fois là-dessus, on ne croit pas à ta version des faits », mais on ne peut pas accuser Paul de raconter des bobards. Il dit « voici ce que moi j'ai vécu ». Lorsque tu témoignes et tu parles de ton vécu, tu parles de ce que Dieu a apporté à ta vie, de ce que Jésus a fait dans ton existence, on ne peut pas te critiquer pour ce témoignage, c'est ton histoire. Lorsque tu parles de ton vécu, on ne peut simplement que dire, voilà, c'est ce que toi, il t'est arrivé. Assurément, on peut fermer les yeux. Je vous parle parfois de mon chirurgien à qui on tente de témoigner si régulièrement, à qui on tente de parler de Jésus pratiquement à chaque fois qu'on le rencontre, mais il s'éclipse toujours, il essaie de dévier la conversation ailleurs parce qu'il n'a pas nécessairement envie d'entendre. Toutefois, il y a une chose qui reste, c'est que ce qu'il a vu dans ma vie, ce qu'il a vu à travers moi, ce qu'il a vu, le sourire qui m'a toujours accompagné, la paix qui m'a toujours accompagné pendant ce périple, fait en sorte que cela le surprend. Lorsque un jour il passe par des moments difficiles, ben le témoignage de ce patient en stade 4 qui garde le sourire, voilà ce qui l'étonne et voilà ce qui fait que Florent reste marqué dans son esprit. Donc, on ne doit pas tomber dans le piège de trouver notre témoignage, notre histoire. Parlons de ce que nous savons, parlons de ce que nous avons expérimenté quant à la paix, quant à la grâce, quant à l'amour, quant à la puissance avec laquelle Dieu a agi dans notre propre histoire. Qu'elle soit spectaculaire aux yeux des hommes ou qu'elle soit à nos yeux tout à fait anodine, parlons de ce que Dieu a fait pour nous. Deuxième chose, Paul va dire, « Je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage. » Supériorité, c'est le terme hyperroché. Hyperroché, H-Y-P-E-R-O-C-H-E. Je répète, hyperroché, H-Y-P-E-R-O-C-H-E, qui parle de quelque chose qui est excellent, quelque chose qui est meilleur ou quelque chose qui est supérieur. Alors, Paul n'est pas venu avec un langage, le logos, ici, et c'est pour ça que c'est intéressant de retourner au terme grec. Paul ne parle pas ici qu'il parlait mieux que les gens. Paul ne parle pas ici qu'il avait un meilleur vocabulaire que les gens. Ce qu'il est arrivé ici, c'est en parlant, « Moi, je n'ai pas une doctrine plus forte que vous. Je n'ai pas un enseignement plus fort que vous. Je n'ai pas une supériorité théologique par rapport à vous. » Ce que Paul partageait, c'était quelque chose qui était humble. Et très souvent, malheureusement, lorsque on témoigne, lorsqu'on partage la parole de Dieu, certains vont tomber dans le piège de rentrer dans un débat théologique à travers lequel ils veulent montrer que leur théologie est plus forte que celle du voisin. Ils veulent essayer de convaincre avec une théologie plus dense, plus profonde, plus solide et abaisser l'autre ou faire trembler l'autre dans ses croyances. Lorsqu'on témoigne et lorsqu'on veut, tel que Paul va le dire dans le verset 2, voir Christ et Christ crucifié, on parle à des gens, on témoigne à des gens, on amène des inconvertis vers Christ. Alors, on n'est pas en train de débattre, toi, ta foi, c'est celle-ci, moi, c'est celle-là, et je vais te démolir pour pouvoir te récupérer et t'amener dans la vérité. Paul ne s'est pas présenté comme le grand théologien qui rentre dans des débats. De surcroît à cela, il va nous dire qu'il n'est pas venu non plus avec une supériorité de raisonnement. Toujours le terme supériorité hyperroché, sagesse maintenant, qui est le terme Sophia. Je ne suis pas venu avec vous avec une supériorité de langage ou avec une supériorité de sagesse. Sophia pour sagesse, S-O-F-H-I-A, comme le prénom Sophia, S-O-P-H-I-A, Sophia en français, en tout cas, qui veut nous parler de connaissance, de raisonnement et de pensée. Quand on témoigne, certains veulent aussi y aller avec une méthodologie. Je vais y aller de A, B, C, D, E et arriver à la fin de l'alphabet pour avoir l'occasion de te prouver que mon raisonnement est sensé, est logique et bien fondé. Paul va dire, l'annonce de la mort et de la résurrection de Christ comme sauveur de l'humanité est une folie pour le grec, est une folie pour le bien-pensant. Lorsque nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus comme source de salut, on ne fait pas appel à l'intellect des gens. La foi ou le message de l'Évangile ne se reçoit pas intellectuellement, il se reçoit par la foi. Et la foi n'est pas nécessairement quelque chose de consensuel ou quelque chose de logique ou quelque chose de sensé. Il y a une partie d'inconscience au niveau de la foi. Il y a une partie d'ignorance au niveau de la foi. Et là, je ne parle pas d'une ignorance intellectuelle, mais marcher par la foi, c'est un certain fermer les yeux et continuer à marcher, ne pas tout comprendre et malgré tout croire, ne pas tout saisir et malgré tout continuer à avancer. Lorsque je viens à Christ et que la parole de Dieu me dit, « Voici Florent, tu es pécheur et tu as besoin d'un sauveur. » Et ce sauveur, l'unique, seul et complet sauveur, le seul, c'est Jésus-Christ. Lorsque je reçois ce message, c'est pas une question intellectuelle qui va me faire dire « Oui, je crois que Jésus est le Sauveur », mais c'est une question de foi. C'est un abandon de notre logique pour embrasser la pensée de Dieu. Alors Paul, lorsqu'il est venu vers les gens de Corinthe, ne s'est pas présenté avec une supériorité théologique. Il ne s'est pas présenté non plus avec une supériorité intellectuelle. Il nous dit qu'il est venu chez eux non pas avec une supériorité de langage, ni même avec une supériorité de sagesse pour annoncer le témoignage. Il va même nous dire, et on va le voir dans quelques jours, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Donc, Paul n'est pas arrivé en supérieur. Paul n'est pas arrivé en grand Manitou intellectuel. Paul est arrivé tout simplement avec son témoignage, avec l'histoire qu'il avait lui-même embrassée de Christ mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Et lorsque nous témoignons de Christ, c'est à ça qu'on devrait arriver. C'est vers ça qu'on devrait toujours revenir. Christ, seul sauveur, agneau de Dieu, mort et ressuscité pour le péché. Alors, les trois pièges que nous avons aujourd'hui, ne pas parler du témoignage de Christ mort et ressuscité, ne pas parler, le piège d'éviter notre propre témoignage, parler de tout un tas d'autres choses que de notre propre histoire. On doit parler de ce que Christ a fait lui-même dans ma vie. Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai su, voilà ce que je crois, voilà ce que je sens, voilà ce sur quoi on doit témoigner. Deuxièmement, ne pas se prendre pour plus fin finaux, pour plus intelligent, ne pas se prendre aussi comme meilleur théologien et rentrer simplement dans un débat théologique avec ceux à qui on témoigne. Vous savez que lorsqu'on vient vous confronter avec d'autres idées contraires aux vôtres, lorsqu'on rentre dans une joute intellectuelle, ça laisse les gens camper sur leur position. On va se sentir réfractaire à recevoir ce que l'autre amène devant nous parce qu'on sent que c'est simplement une confrontation. Le témoignage n'est pas une confrontation théologique. Le témoignage n'est pas une confrontation intellectuelle. Le témoignage, c'est simplement dire « Christ a été bon pour moi. Voici ce que Jésus a fait pour moi. » Alors, j'espère, mon frère, j'espère, ma sœur, que tu ne tomberas pas dans les trois pièges du jour. Parler d'autre chose que ce que Jésus est pour toi. Et venir avec le défi d'être intellectuellement supérieur à la personne avec qui tu parles et le défi penser devoir être théologiquement supérieur et rentrer dans un conflit théologique avec la personne. Alors voici ce que nous avions pour ce matin. Prions. Seigneur, toute cette semaine, tu vas nous entretenir, tu vas nous parler. sur certains pièges dans lesquels on tombe parfois lorsqu'on prêche ou lorsqu'on témoigne, lorsqu'on partage le message de l'Évangile. Alors je prie, Seigneur, que nous apprenions à parler de ce que nous avons en toute simplicité avec toi, cette grâce qu'on a reçue de toi, ce fait que j'étais pécheur et que Jésus est mort pour me pardonner. C'est ce que j'ai vécu qu'on doit partager, Christ mort et Christ ressuscité pour le pécheur repentant. Et je prie, Seigneur, qu'on ne tombe pas dans le piège de vouloir être intellectuellement supérieur à nos interlocuteurs, à ceux avec qui on parle. Je prie, Seigneur, qu'on ne tombe pas non plus dans le piège d'une joute, d'un débat oral ou oratoire, d'un débat intellectuel, d'un débat théologique. Ce n'est pas dans ça qu'on doit aller, parce qu'à ce moment-là, c'est tout simplement des paroles vaines, des paroles futiles, qui nous éloignent du point central de Christ mort, crucifié, ressuscité pour le salut du pécheur repentant. Alors, permets-nous cette semaine de déjà mettre en application ces simples petits principes qu'on a vus ce matin et que tu puisses continuer à nous enseigner tout au long de cette semaine. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont déjà cours. Vous pouvez déjà appeler au secrétariat de l'Église ou écrire sur l'adresse courriel de l'Église pour vous enregistrer pour ce dimanche. Permettez-moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, à la fin de nos réunions, simplement pour saluer ceux qui se sont connectés, ceux que je peux voir qui se sont connectés depuis tout à l'heure. Donc, bonjour à la sœur Florie, au frère Louis, bonjour à Babette et à Andreas, bonjour à France et à Patrick, bonjour à Myriam et à Donald, bonjour à Rosie. Bonjour à Maggie, vous saluez Eduardo de notre part. Qui d'autre? Bonjour à Marie-André, à notre amie Farley. Bonjour à Ramon, à Evelyne. Qui d'autre? Qui d'autre? Bonjour à la sœur Susanna, à son époux. Et puis, je pense que c'est tous les autres. Je ne vous vois pas ou je vous ai salué avant qu'on ne débute. Donc voilà, on espère que vous passerez une bonne journée. Ce soir, la diffusion du cours biblique donné par le pasteur André hier. Donc, ça a été enregistré et ça sera diffusé ce soir en direct ou en différé plutôt à 19h. Donc, inscrivez-vous pour le culte de dimanche et on se retrouve demain matin pour notre deuxième partie. Il y en aura quatre ou cinq, dépendamment comment on divise les choses. On a vu la partie 1. Demain, on voit la partie 2. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.